La météo en un mot, c'est mouillé.
Mais voilà.
C'est mouillé là, de la pluie depuis hier. Vous le savez, je vous en parlais hier matin qu'on était dans un avertissement de pluie pour hier après-midi jusqu'à ce soir. Donc la pluie qui continue aujourd'hui, 5 à 10 mm de pluie. Journée douce, on est à 2, le maximum 4, voire 5 degrés. Faites attention sur les routes. Aquaplanage et n'oubliez pas d'allumer vos lumières. Il y a des endroits où il y a du brouillard aussi. Sinon, demain matin, peut-être un peu plus glissant sur les routes parce que le mercure chute sous le zéro. Demain, le maximum seulement de moins 6 degrés avec une petite neige intermittente. Donc, possibilité de route glacée. On fait attention dans nos déplacements et samedi, c'est sensiblement pareil que demain, moins 8, neige intermittente. Donc, voilà pour les prochains jours.
La circulation, présentée par la laiterie Charlevoix, le plus grand choix de fromage de la région. Pour des conseils fins comme leur fromage, passez voir laiterie Charlevoix au Grand Marché de Québec.
C'est encore super beau.
Le meilleur matin jusqu'ici de la semaine de relâche. Tant quand même côté circulation?
Oui, parce que à date, j'ai rien eu à dire.
Hey, on va le prendre.
Je me souviens, il y a eu une circulation compliquée, là.
Ouais. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Hier, il y a quand même eu un incident. Là, c'est zéro puis une barre. Là. Ça
zéro puis une barre, tout est beau.
On continue de même, puis ensuite, bon, on ira au dépanneur s'acheter un 6,49. Collectif, ensemble. On ne manque surtout pas de sujets d'actualité. J'allais dire des derniers jours, mais depuis un méchant bout. Sincèrement, depuis notre premier show en revenant des vacances du temps des fêtes, quand Justin Trudeau a démissionné.
Et voilà, on est revenu sur la démission de Justin Trudeau et depuis ce temps-là, ça ne fait que débouler.
Le vulgarisateur d'actualité que vous aimez autant que nous, Farnel Morissette, est avec nous en studio. Comment ça va, Farnel?
Ça va bien, les routes sont super belles. J'espère que ça va bien pour tout le monde.
C'était assez fluide pour te rendre au studio.
J'ai le temps de m'arrêter pour un café, c'est le fun.
Tabarouette, hein? Pas pressé, c'est parfait, ça. Ça se prend de même. Farnel, OK, on se lance tout de suite dans la discussion, puis inévitablement, on n'a pas le choix de jaser de Donald Trump. Étais-tu surpris que Donald Trump décide finalement d'imposer ses tarifs puis pas encore reculer puis donner un délai ou un sursis?
Ben non, parce que comme on a vu la dernière fois, bon, il a donné le sursis à la dernière minute, mais on s'est dit bon, la minute qu'on agit comme si on le prend un peu au sérieux, c'est là qu'il va le faire parce qu'il est obligé de le faire. Combien de temps ça va durer, que ça dure 2-3 jours, je sais pas. Je pense que l'objectif, c'est plus d'envoyer un message qu'autre chose, puis voir aussi comment le Mexique va réagir à ça et comment à l'interne les industries aux États-Unis vont réagir aussi.
Pour pas utiliser de mauvais jeux de mots, il va vraiment à la pièce et a donné un sursis à l'industrie de l'automobile. Puis là, on sait que beaucoup de pièces vont faire l'aller-retour souvent.
Il y en a qui font l'aller-retour 6-7 fois avant d'être installé dans un véhicule finalement d'un côté ou de l'autre de la frontière. Alors, tu sais, comme on disait en anglais, you can't unscramble an omelette. On peut pas défaire l'omelette. Là. Une fois que les pièces sont mélangées partout, là, commencer à mettre des tarifs là-dessus, ça devient difficile.
Stratégie planifiée selon toi ou stratégie improvisée?
Ah, avec Trump, c'est un peu des deux en même temps. On a l'impression que, tu sais, il y a des politiciens qui font de la musique classique. Eux autres, c'est tout planifié d'avance. Ils sont allés à l'école, ils ont étudié précisément comment faire des choses. Il y a des politiciens que c'est n'importe quoi. Avec Trump, on a l'impression d'un politicien qui joue au jazz. Tu sais, il y a un petit plan, il y a son petit équipe autour de lui qui savent improviser avec lui, puis ils savent à peu près où est-ce qu'ils s'en vont. Mais comment ils vont se rendre là, c'est pas trop grave. On va juste brasser l'arbre un peu, voir ce qui tombe.
Tu parles de son équipe qui sait où est-ce qu'il s'en va. Son secrétaire au commerce, il le sait-tu vraiment? Parce que lui, ça fait comme une couple de fois qu'il lance des informations, puis le dernier événement, c'est le jour du discours au Congrès, où avant, il disait « Ouais, peut-être demain, on va avoir de quoi annoncer. » Après le discours au Congrès, il en a remis une couche en disant « Le Canada a fait une grosse offre. » Fait que là, on s'attendait à ce qu'hier, il se passe quelque chose. Finalement, rien pantoute.
Je pense que l'analogie du groupe de jazz est bon.
Ouais, c'est bon.
Si t'es secrétaire du commerce, t'es comme un peu le drummer. Genre, t'es en arrière, puis t'as Trump qui est le trompettiste vedette qui est en avant. Puis, tu sais, bon, ben, des fois, tu sais, à soir, ça va être relax. Mais des fois, t'as ton trompettiste vedette dans ton groupe de jazz qui part sur un envolé. Puis, toi, en tant que le drummer, ben, ta job, c'est de suivre, puis continue le beat, puis, tu sais, ajoute un petit peu. Je pense que c'est à peu près ça qui se passe présentement. Est-ce qu'il sait exactement où ça va? Non, mais il est capable de suivre.
J'adore ça. Tantôt, t'as piqué ma curiosité, t'as dit, c'était certain que Donald Trump allait imposer des tarifs la minute où on allait arrêter de danser avec lui et qu'on allait dire « Hey, regarde, on n'embarque plus dans ta folie. » Est-ce que c'est ça qui est arrivé hier? Puis qu'est-ce que tu penses justement de la réplique contre-tarif du Canada?
Je pense que la réplique contre le tarif du Canada est nécessaire. Je pense que c'est ça qui est arrivé justement. On n'avait plus le sentiment d'engouement, de crainte en tout cas. Puis je pense que ça, M. Trump l'a senti aussi, probablement que dans les négociations derrière les portes closes, les négociateurs canadiens sont rentrés beaucoup plus ferrés, beaucoup plus préparés. On a eu un mois pour préparer le terrain. Ce qui fait que, bon, ben là, M. Trump a l'impression, OK, il call le bluff, let's go, je les impose. Alors, qu'est-ce que le Canada est obligé de faire? Répondre avec des tarifs en réponse. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, je suis fondamentalement d'accord que dans ce cas-ci, la réplique canadienne, elle est là-bas.
Et qu'est-ce qui fait que tu es fondamentalement d'accord comme ça?
Je comprends qu'il y a des gens qui sont pas confortables avec les analogies de cours d'école puis de répondre à des intimidateurs qui trouvent que ça fait du populisme. Alors là, je veux mettre ça au clair. Moi, j'ai travaillé 6 ans aux États-Unis. J'aime les gens des États-Unis, c'est mes collègues, c'est mes amis, dans certains cas, c'est ma famille. Puis je pense qu'on a tous besoin de se rappeler de ça, que c'est des gens qu'on connaît. Mm-hmm. Je suis pas dans un espèce de rah-rah nationalisme où je mets mon pays en premier au détriment des autres. Ce genre d'attitude-là me pue au nez. Malgré ça, alors, on va les éviter, là, toutes ces analogies-là qui ont un petit sentiment de populisme, je comprends ça. La réponse est très simple, c'est que si on regarde en termes froids, puis ça, c'est un peu l'espèce de réponse populaire, on veut regarder ça froidement, ben, si on ne met pas de tarifs, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les industries canadiennes avant avaient un libre accès au gros marché des États-Unis et un libre accès au marché canadien. Et en échange de ça, c'est que la grande quantité d'entreprises des États-Unis avait aussi libre accès au gros marché des États-Unis et au marché canadien. Si maintenant, l'accès au marché des États-Unis devient protégé, c'est-à-dire que les industries canadiennes n'ont plus accès au marché des États-Unis et doivent encore compétitionner avec les industries des États-Unis dans le libre marché canadien, ben à long terme, c'est que c'est un double désavantage pour les industries canadiennes. Les industries des États-Unis vont avoir une base solide dans leur marché qui est protégé chez eux aux États-Unis. Et ça va leur donner la base économique nécessaire pour faire une compétition déloyale au Canada dans un libre marché, quand eux, ils ont l'avantage de venir d'un marché qui leur est entièrement protégé. C'est sûr que ça va faire mal. Ça va nous faire mal à nous. On ne peut pas s'en cacher. Ça va plus nous faire mal à nous que ça va faire mal aux États-Unis parce qu'il y a une asymétrie. Un marché beaucoup plus petit. Mais si on ne le fait pas, le résultat à long terme, c'est que les industries canadiennes auront plus de base économique suffisamment solide pour pouvoir compétitionner, pour pouvoir rester à jour contre les industries des États-Unis. Et à moyen et long terme, les industries canadiennes seront plus capables de rester viables. Alors, l'idéal, ce serait qu'il y ait un énorme pool de libre marché aux États-Unis et au Canada pour les industries de tout le monde et que tout le monde puisse compétitionner. Ça fait baisser les prix. Le gagnant, c'est le consommateur. Mais si on n'est pas capable de faire ça et on n'a plus accès au marché qui est rendu protégé aux États-Unis, les industries canadiennes ont besoin d'avoir un marché qui leur est protégé à eux pour pouvoir continuer à être viable. Puis ça, c'est le protectionnisme canadien.
Donc, Farnell, à ceux et celles qui vont dire « on se tire dans le pied », la réponse serait « oui, effectivement,
oui.
Peut-être qu'on se tire dans le pied, mais on n'a pas le choix pour prouver un point ».
Ben, c'est pas une question de prouver un point, c'est pas une question de « rah-rah ». Ça peut être ça. Je pense que ça rentre dans la discussion aussi de devoir justement montrer au monde au complet, parce que c'est pas juste les États-Unis, on existe dans une géopolitique mondiale, que le Canada va pas se laisser piétiner économiquement. Mais même si on enlève toutes ces considérations-là, c'est simplement le fait que si les industries canadiennes n'ont plus accès au marché des États-Unis, mais les industries des États-Unis ont accès au marché canadien, c'est un déséquilibre économique qui ne permet pas aux industries canadiennes de rester compétitives et viables, ce qui fait qu'à long terme, les emplois ici, on va essentiellement devenir un monde de cheap labor.
Est-ce que je pourrais le simplifier? Puis peut-être je suis dans le champ, j'essaie de bien comprendre puis de mettre en image pour que tout le monde comprenne. Qu'on veut, en quelque sorte, créer une inflation sur les produits américains pour que les produits canadiens puissent aussi garder des prix compétitifs avec les produits américains qui vont entrer après cette surtaxe-là?
Oui, c'est le cas. C'est une bonne façon de le dire. J'ai entendu que les tarifs sur les importations canadiennes des États-Unis, c'est une question de politique fiscale interne des États-Unis, ce qui est vrai. Mais l'effet de cette politique-là, c'est de faire en sorte que les biens canadiens seront plus compétitifs parce qu'ils vont être trop chers aux États-Unis. Alors, ça ne nous donne plus accès. Alors oui, c'est une mesure fiscale interne, mais l'effet est externe. L'effet, c'est de bloquer l'accès aux biens canadiens au marché des États-Unis. Alors, ce qu'on fait en réponse, c'est la même chose. En rendant un tarif d'importation sur les biens qui viennent des États-Unis de 25 %, on va voir exactement ce que c'est. Puis là, il faut préciser, là, on n'est pas en train de répondre avec un tarif across the board, un tarif généralisé comme le font les États-Unis.
Non, c'est sur certains
produits
ciblés.
C'est ciblé de façon très précise. Je pense encore une fois que ça, c'est bien. On est en train de dire au bien des États-Unis dans ces marchés-là que c'est plus viable pour eux de rentrer dans le marché canadien. Ce qui fait que parce que les prix des biens américains sont plus élevés, les biens canadiens vont être plus compétitifs. On va augmenter la demande pour des biens canadiens. Et ça va aider l'industrie canadienne. Ça va augmenter les prix, comme on disait, là. Soyons clairs, ça va faire mal. Mm-hmm. Mais si on le fait pas, l'effet à long terme va nous faire encore plus mal.
C'est quoi la prochaine étape? Donald Trump a parlé le 2 avril des tarifs sur les produits agricoles. Il a mentionné à ses agriculteurs, soyez prêts à produire parce qu'on n'aura plus de produits canadiens ou ils vont être tarifés. Est-ce que c'est la prochaine étape pour les Américains? Puis nous autres, la prochaine étape, c'est de dire, hey, tu vas te passer notre électricité?
Ben, parlons de l'agriculture en premier. Je comprends que dans une certaine logique un peu déconnectée de la réalité, on peut se dire, bon, ben, on va augmenter la demande, alors on va nécessairement augmenter la production. Mais il y a une expression qui m'intéresse beaucoup, c'est que 12 femmes ou 9 femmes enceintes ne peuvent pas faire un bébé en un mois. Alors, on ne peut pas faire pousser le blé plus rapidement aux États-Unis parce que la demande va soudainement être là. Alors, ça va faire mal, il va y avoir un choc de demande qui va faire augmenter les prix de la nourriture. Peut-être qu'on peut rediriger une partie de la production agricole, mais ça ne va pas être gros. Quand on parle de l'électricité, par exemple, je veux dire, on commence à invoquer la possibilité de couper les accès d'électricité aux États-Unis. Je pense qu'il faut faire très, très attention. Si c'est une mesure qu'on prend, il va falloir le dire clairement d'avance à nos amis aux États-Unis pour qu'ils puissent se préparer. Parce que je comprends là, qu'il y a bien des gens qui disent « On va fermer la Switch, puis on va avoir fret. »
Ben, Doug Ford le dit.
Je comprends ça, mais je veux
dire... s'achète des chandelles.
Mais il y a des hôpitaux aux États-Unis qui ont besoin de l'électricité canadienne.
En effet.
Il y a des maisons de personnes âgées. Il y a des services critiques qui ont besoin de ça. Alors, j'espère que si on le fait, on le fait d'une façon humaine, respectueuse du fait que, justement, je comprends qu'on est en train de se chicaner, là, mais les États-Unis ne sont pas nos ennemis. Et on veut continuer un jour à avoir des bonnes relations avec les États-Unis. Si ça va jusque-là, et j'espère que non, mais si ça va jusque-là, j'espère que ça va être fait d'une façon extrêmement claire, extrêmement ouverte et dans le respect de nos relations bilatérales.
Fernel, j'ai besoin de ton expertise parce que, puis on en a déjà jasé, mais je veux comprendre qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire pour qu'on aille plus loin avec cette histoire-là. Le contexte, on connaît qu'un président des États-Unis a signé un décret par rapport à la frontière et le fentanyl, donc sécurité nationale. Donc, voilà l'excuse de pourquoi on est dans cette guerre économique. La question que j'ai pour toi, qu'est-ce que quelqu'un peut faire, outre le président des États-Unis, pour mettre en question peut-être ce décret-là, puis dire, attends une minute, parce que tout le monde le sait que ça n'a aucun sens, là. Que c'est pas une histoire de frontières puis de fentanyl avec le Canada, que c'est juste ce décret-là qui fait en sorte qu'on est avec ces tarifs-là puis la menace d'autres tarifs. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire pour qu'on, je sais pas moi, déchire le décret ou qu'on l'oublie parce que ça n'a aucun sens, cette excuse-là?
Je pense que ce qu'on a vu dans les, disons, 15-20 dernières années, c'est qu'il y a maintenant un pattern assez clair. Comment on fait pour battre les États-Unis? On résiste et on attend. Parce que la volatilité politique aux États-Unis fait en sorte que ça vire d'un bord à l'autre extrêmement rapidement. Je veux dire, regarde ce que la Russie a fait. Ils ont résisté et ils ont attendu. Puis maintenant, bon, ben, le changement d'administration aux États-Unis, ça semble rouler de leur bord. Alors, il y a des forces politiques internes aux États-Unis qui sont très fortes. Ça prend beaucoup de temps pour que les forces d'opposition, les contrepoids au pouvoir exécutif se rallient. Présentement, les contrepoids au président Trump sont encore en train d'essayer de trouver leurs pieds, mais ça va se faire éventuellement. Quand ça va se faire, il y en a qui vont se réveiller, qui vont dire « Hey, ça nous coûte vraiment cher à nous, ça nous fait mal à nous, l'espèce de guerre tarifaire, les mesures protectionnistes du président Trump. On n'aime pas ça. » Et cette pression-là va être capable d'être canalisée par les contrepoids et éventuellement faire une pression que l'exécutif va être obligé, l'exécutif ici, c'est M. Trump, va être obligé de réagir en réponse. Ça prend du temps. Il faut être patient. C'est conçu comme ça. Les États-Unis sont conçus pour que les contrepoids ne soient pas rapides, mais qu'ils sont ultimement les plus puissants quand ils sont capables de s'organiser.
Je suis curieux aussi de t'entendre par rapport à une nouvelle qui est sortie là-dessus. Puis encore une fois, c'est une nouvelle où Trump est impliqué, signe un décret, puis qu'on se demande un peu, bien, voyons donc, il peut juste faire ça de même. Et Donald Trump qui demande le démantèlement du ministère de l'Éducation des États-Unis. Puis dans les règles, le ministère de l'Éducation peut pas être démantelé sans que ça passe par le Sénat, puis il aurait besoin de 60 votes, il y a 53 sièges. Fait que là, il signe son décret, puis son décret, c'est « on démantèle le plus possible le ministère de l'Éducation sans qu'on ait à passer par le Sénat, mais ça va finir par revenir à peu près au même. » Fait que tu sais, décret, je commence à me dire qu'il peut faire n'importe quoi avec ça, puis il est peut-être là le danger.
Ben, il peut faire n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de questions légales, constitutionnelles, à savoir c'est quoi exactement l'étendue complète du pouvoir du président qu'il peut faire par décret. Mais tu sais, quand je disais qu'il faut attendre, qu'il faut laisser au contrepoids le temps de s'organiser, c'est un peu ça. Le contrepoids à cette mesure-là, c'est le Congrès, c'est la Chambre des représentants et le Sénat. Et pendant une bonne partie des derniers mois, il n'était pas en chambre. Alors, il n'y a pas grand-chose qu'ils peuvent faire. Bon, ils reviennent en chambre, ils commencent à travailler. Éventuellement, il va y avoir justement des mesures qui vont être mises. On va voir comment les majorités républicaines en Chambre des représentants et au Sénat vont réagir. Et puis après ça, ben, il y a des élections aux 2 ans. Alors, on va voir dans 1 an et demi comment la population...
C'est long!
C'est long, c'est ça. C'est long. C'est comme ça qu'on puis je le répète, là, la façon qu'on gagne contre les États-Unis, c'est que tu résistes et t'attends. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. C'est sûr que c'est tough, c'est sûr que c'est pas le fun, c'est sûr que pour les gens qui vont perdre leur job dans les 2 prochaines années, leur dire « attendons un petit peu », c'est pas une réponse qui est satisfaisante, mais on n'a pas d'autres moyens efficaces que ça pour l'instant, puis essayer d'aller plus loin, on risque de se faire encore plus mal.
Je termine en politique internationale parce qu'on a parlé depuis vendredi énormément du cas de l'Ukraine. Hier, il y a eu un discours à la Nation d'Emmanuel Macron. Les pro-Trump mentionnent que l'Europe est contre une paix durable en Ukraine. Macron lui dit « Je ne veux pas d'une paix justement où la Russie va venir gagner et par la suite se renflouer au niveau de l'armée et attaquer d'autres territoires européens. » Tu te situes où, toi, par rapport à la paix en Ukraine espérée par Donald Trump?
Sans vouloir tomber dans les hyperboles, s'il y a une chose qu'on a appris du 20e siècle en Europe, c'est que l'apaisement ne fonctionne pas. Les accords de cessez-le-feu, en effet, ont semblé plutôt être des accords de réarmement russe pendant que l'Europe se laissait un petit peu endormir chaque fois.
La dernière preuve étant la Crimée en 2014.
La Crimée en 2014, un excellent exemple, mais je veux dire, on peut remonter loin dans l'histoire. L'apaisement en Europe, ce n'est pas une mesure qui fonctionne. Je pense que ultimement, un jour, là, il va falloir qu'on fasse la paix avec les Russes parce que je pense que ce n'est pas dans l'intention de qui que ce soit d'anéantir la Russie. On est capable d'être amis avec les Russes. Il faut juste que ce soit une paix qui est une réelle paix, une paix qui est tenable. Et ça ne peut pas être un simple accord de cessez-le-feu en se disant « on verra » parce qu'on voit dans le passé, on l'a vu ce qui se passe. Ultimement, je crois que l'objectif des États-Unis là-dedans, c'est de faire ça un problème européen plutôt qu'un problème mondial. Peut-être qu'ils veulent justement en faire un conflit régional plutôt qu'un conflit mondial. Ça, je peux le comprendre, mais ça reste que l'Europe là-dedans est encore largement divisée là-dessus. Et s'il va y avoir un accord de paix qui va être régional, qui va impliquer la Russie et l'Europe, ben, il va falloir que ce soit la Russie et l'Europe ensemble de négocier ça et bon, le Canada peut être impliqué, on le voit, mais sans la position des États-Unis, ça va être une renégociation qui va être difficile.
Farnell Morissette, suivez-le sur les réseaux sociaux. Peu importe la plateforme que vous préférez, allez le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il vulgarise tellement bien tous les sujets. Ou la majorité, je veux pas généraliser, là, parce que je suis un grand fan, là. On va dire la majorité des sujets d'actualité.
Je sais que tout à l'heure, tu m'as nommé professeur Fortin avec le tramway, mais j'aimerais céder mon titre de professeur à Farnell Morissette avec le 17 minutes qu'on vient de passer. J'ai l'impression d'être intelligent comme j'ai jamais été.
C'est un bon petit coup. Hey, puis en passant, moi, je vais prendre 2 petites secondes pour... on est en pleine nouvelle saison de Reg Laplanche Backstage, le podcast. Cette semaine, c'est l'épisode de Jérôme 50. Lundi soir, 19h sur nos ondes, la première de l'épisode avec Farnell, qui est le 2e épisode de la nouvelle saison. Une belle jasette entre Farnell et moi, donc dès 19h et lundi soir, et ensuite disponible sur les différentes plateformes.
Ben, ça a été le fun, j'ai hâte que les gens écoutent ça.
Ouais, ça va être le fun au bout. C'est un excellent épisode, une belle discussion. Max, ça arrête pas. Ça arrête pas, que ce soit l'actualité politique ou culturelle. Et là, il y a une grande tournée canadienne qui va s'arrêter à Québec.
Ouais, puis là, ouais, c'est ça qui est le fun. Là, c'est pas Donald Trump a encore écrit quelque chose sur Truth Social. Hein? 3 Days Grace et Volbeat s'amèneront au Centre Vidéotron le 17 juin prochain. On se doutait bien que Three Days Grace allait passer à Québec d'une façon ou d'une autre dans les prochains mois, parce que Three Days Grace est en première partie de Disturbed dans sa tournée. Ça va être juste à Montréal. Three Days Grace, double tête d'affiche de ce qu'on comprend avec, avec Volbeat. Fait qu'assez solide, merci.
Très, très cool. Three Days Grace, Volbeat, 17 juin prochain. Et cette tournée-là s'arrête ici, au Centre Vidéotron. Donc, grosse tournée rock au mois de juin, ici à Québec. Farnell, merci pour ça.
Merci à vous.
On s'en reparle bientôt.
Oui. Ouais.